info sur VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, Amigro dédié avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. À l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, célébrée le 24 mars, l'Organisation mondiale de la santé appelle à soutenir une nouvelle stratégie sur 20 ans.
On a préparé un petit document qui clarifie la stratégie, quels sont les objectifs de la stratégie, quels sont les piliers de la stratégie.
Le docteur Mario Raviglione, directeur du programme mondial OMS contre la tuberculose, nous en dira davantage. Les quatre satellites de la mission magnétosphérique Multiscale, MMS, de la NASA, l'agence spatiale américaine, vont se consacrer à l'étude de la reconnexion magnétique.
La mission a deux phases. Lors de la première phase, les satellites seront donc en orbite autour de la Terre en suivant une ellipse. Et le point le plus éloigné de l'ellipse, le point le plus éloigné de la Terre, qu'on appelle l'apogée, sera situé à 10 fois le rayon de la Terre.
Olivier Lecontel, chercheur CNRS, reviendra sur la mission. Et si vous avez jamais rêvé d'émuler James Bond, eh bien, sachez que c'est devenu possible grâce à la voiture volante Flying Roadsters de la start-up Aéromobile. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé appelle à une solidarité et une action mondiale pour soutenir une nouvelle stratégie sur 20 ans visant à mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. D'énormes progrès ont été faits dans la lutte antituberculeuse, signale l'OMS, avec plus de 37 millions de vies sauvées, mais voilà, il reste encore beaucoup à faire. En 2013, 9 millions de personnes ont contracté la tuberculose, dont près d'un demi-million, une forme multirésistante beaucoup plus difficile à traiter. 1,5 million de personnes meurent encore de la tuberculose chaque année. Pour plus de précision, on écoute le docteur Mario Raviglione, directeur du programme mondial OMS contre la tuberculose.
Dans cette journée mondiale de la tuberculose, on a pensé de clarifier, en fait, de promouvoir la nouvelle stratégie contre la tuberculose pour la période 2015-2016, en fait, 2035, qui a été approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé, c'est-à-dire par tous les ministres de la santé du monde le mois de mai de l'année passée. On est en train maintenant de clarifier tous les points. Et alors, on a préparé un petit document qui clarifie la stratégie, quels sont les objectifs de la stratégie, quels sont les piliers de la stratégie. Et pour continuer sur la question pilier, la stratégie est vraiment soutenue par trois piliers. Le premier est le pilier qui, en fait, propose ce qu'il faut faire pour le diagnostic, pour le traitement, pour la prévention de la tuberculose avec toutes les innovations possibles et la technologie possible. C'est-à-dire c'est un pilier spécifique de la tuberculose. Le deuxième pilier est le pilier des systèmes sanitaires, des aspects sociaux qu'il faut mettre en place et des politiques sanitaires qu'il faut mettre en place pour essayer de faire fonctionner un programme de contrôle sur la tuberculose. C'est-à-dire que là, on parle vraiment au ministère de la santé à plus haut niveau ou bien au gouvernement et aux autres ministères qui ont des implications pour le contrôle de la maladie. Et ça, c'est pour les aspects sociaux, la protection sociale, l'accès universel, etc. Le troisième pilier est celui spécifique pour la recherche parce qu'on reconnaît dans la stratégie de 20 ans qu'on ne pourra pas arriver à un niveau d'élimination si on n'a pas des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins et des nouveaux diagnostics qui seront disponibles à partir de la moitié des années 2020.
La stratégie a pour but notamment de combattre la tuberculose parmi les groupes les plus vulnérables, dont les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Où se trouve la majorité de ces personnes ?
les personnes les plus susceptibles et vulnérables pour attraper une maladie comme la tuberculose sont les personnes qui ont une infection de VIH. La majorité de ces personnes-là, c'est-à-dire presque 80%, sont en Afrique. C'est vraiment en Afrique l'épicentre de cette épidémie de TB-VIH. Il y a aussi, bien sûr, TB-VIH presque partout dans le monde, avec l'Inde, par exemple, qui a un nombre de cas importants. Mais, comme j'ai dit, les 80%, le 4/5 du problème est à niveau africain. Là, il faut avoir vraiment une approche, comme on peut dire, horizontale à la maladie tuberculose et surtout une connexion avec les systèmes primaires de santé, c'est-à-dire où les malades, y compris les malades séropositifs, vont pour les problèmes qu'ils ont de santé, et une approche combinée, coordonnée avec le programme du contrôle du sida, parce qu'il y a des interventions pratiques, par exemple la prophylaxe de la tuberculose, ou bien le screening des malades, en fait des personnes qui ont le VIH, pour essayer de faire une diagnostic anticipé de la maladie tuberculose. Alors il y a des interventions qui vraiment demandent que les deux programmes travaillent très, très, très liés entre eux, parce que sinon les choses ne marcheront pas.
La stratégie pour combattre la tuberculose a en fait des cibles très, très ambitieuses.
C'est important de souligner que ce qui accompagne cette nouvelle stratégie approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé, encore une fois, sont des objectifs très ambitieux. Les objectifs qu'on a dans la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé parlent de 95% de réduction des morts entre 2015 et 2035, 90% de réduction de l'incidence de la maladie dans l'année 2035, et le grand, je dirais, troisième objectif, c'est ce qu'on appelle zéro, c'est-à-dire zéro coût catastrophique pour les malades ou les familles qui sont affectées par la tuberculose. Ça, à partir de 2020, en fait, ça signifie qu'il faut faire l'effort plus grand possible pour arriver à la couverture universelle des mécanismes de protection sociale qui permet aux malades de tuberculose, qui sont normalement les plus pauvres entre les pauvres, de guérir de la maladie tuberculose sans avoir des coûts catastrophiques liés à par exemple, aux médicaments liés au diagnostic ou bien à la perte du travail, parce que cette maladie comporte 6 mois de traitement comme minimum.
On écoutait le docteur Mario Raviglione, directeur du programme mondial OMS contre la tuberculose. Il était joint à Genève. Washington, Camille Codidier avec vous pour cette édition du magazine hebdomadaire Carrefour Science et Santé. Les 4 satellites de la mission magnétosphérique Multiscale MMS de la NASA vont se consacrer à l'étude de la reconnexion magnétique. Ils ont été lancés récemment et vont occuper une orbite à mi-chemin entre la Terre et la Lune, restant relativement proches les uns des autres. La reconnexion magnétique est un processus fondamental qui permet de transférer l'énergie magnétique aux particules chargées sous forme de chauffage et d'accélération. De nombreux laboratoires américains, européens et japonais sont impliqués dans la mission MMS de la NASA, notamment 2 laboratoires français. Joint en France, Olivier Lecontel, chercheur CNRS, revient sur la mission.
Elle implique 4 satellites. Pourquoi 4 satellites? Eh bien parce que avec 2 points dans l'espace, on peut tracer une droite. Avec 3 points, on peut définir un plan dans l'espace. Et si on veut étudier aussi les phénomènes dans la 3e dimension de l'espace, on en a besoin au minimum de 4 points. Donc 4 points qui sont placés sous la forme d'une pyramide ou d'un tétraèdre.
Donc en fait, dans l'espace, leur placement est en forme de pyramide.
Voilà.
Et ils se sont situés où exactement au-dessus de notre planète?
La mission a 2 phases. Lors de la première phase, les satellites seront donc en orbite autour de la Terre en suivant une ellipse. Et le point le plus éloigné de l'ellipse, le point le plus éloigné de la Terre, qu'on appelle l'apogée, sera situé à 10 fois le rayon de la Terre lors de la première année. Et lors de la 2e année, ce point-là sera éloigné et il sera situé à 25 fois le rayon de la Terre. C'est des régions quand même très éloignées de la surface de la Terre.
Ces satellites vont être dédiés à l'étude de la reconnexion magnétique. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un processus physique qui est étudié depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est un des mécanismes qui permet de transférer de l'énergie magnétique à des particules, à du gaz ionisé, via des processus justement qu'on cherche à mieux comprendre. Alors pour donner un exemple, un objet céleste, une planète, une étoile, une galaxie, peut avoir son propre champ magnétique interne, et ce champ magnétique va constituer une source d'énergie. Et lors d'un phénomène de reconnexion magnétique, c'est-à-dire de reconfiguration du champ magnétique de cet objet, eh bien, il y a une possibilité de transférer l'énergie qui était stockée dans le champ magnétique de l'objet céleste, de transférer cette énergie au gaz qui peut être présent dans l'environnement de cet objet.
L'importance de cette mission, c'est que ça va permettre de mieux connaître et de mieux surveiller donc les vents solaires et leur impact.
Le Soleil éjecte en permanence ce qu'on appelle du plasma, c'est-à-dire un gaz ionisé d'ions chargés positivement et d'électrons. Ce plasma est expulsé dans tout le système solaire et parvient notamment dans l'environnement terrestre. Lorsqu'il arrive au voisinage de l'environnement terrestre, il est dévié par le champ magnétique terrestre qui constitue une sorte de bouclier, puisque les particules chargées sont sensibles au champ magnétique et donc elles sont déviées de leur trajectoire par le champ magnétique. Lors de périodes d'activité solaire très forte, lorsque du plasma est éjecté de la surface du Soleil, en quantité beaucoup plus importante que d'ordinaire, eh bien, c'est lorsque ces bulles de plasma sont éjectées en direction de la Terre et qu'elles rentrent en contact avec le champ magnétique terrestre, elles vont effectivement fortement le perturber, comprimer cet environnement magnétique de la Terre et produire des courants électriques très intenses. Et ces courants électriques très intenses peuvent effectivement, à leur tour, produire des perturbations dans les installations électriques terrestres ou conduire aussi à la détérioration de satellites en orbite relativement proche de la Terre. Donc il y a un ensemble de phénomènes qui peuvent se produire liés à l'interaction entre l'activité solaire et le champ magnétique de la Terre. Et l'émission type d'MMS, mais il faut savoir qu'actuellement, il y a toute une flotte de satellites qui permettent d'étudier les interactions entre le Soleil et la Terre. Il y a la mission européenne Cluster, qui est aussi une mission de 4 satellites qui avait été lancée en 2000 et qui est toujours en activité. Il y a la mission Themis de la NASA, qui est constituée de 5 sondes et qui est aussi toujours en activité. Et maintenant, la mission MMS. Et toutes ces missions-là permettent de faire des études coordonnées pour effectivement mieux comprendre ces phénomènes et ces interactions entre le plasma qui est expulsé du Soleil et l'environnement magnétisé de la Terre.
On écoutait M. Olivier Lecontel, chercheur CNRS. Il était joint en France. Ici Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé sur les ondes de La Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier. Plutôt que de développer des pratiques d'élevage durables et saines, nombre de producteurs, notamment en Asie, ont recours aux antibiotiques pour prévenir les infections bactériennes résultant de conditions insalubres ou pour produire des animaux plus gros. Ils en abusent tellement que les micro-organismes dans les corps des animaux développent une résistance aux microbes. Et en conséquence, les antibiotiques supposés tuer les bactéries deviennent inefficaces. Un mécanisme qui peut se transférer dans l'organisme humain et pose une menace à la santé publique, comme le réaffirme une nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. Selon cette étude, l'utilisation des antibiotiques chez les animaux devrait augmenter de 67% d'ici à 2030, soit dans 15 ans. Marius Gilbert, l'un des auteurs de l'étude, nous en dit davantage.
La principale raison, c'est qu'il y a une très très grande quantité d'antibiotiques qui sont utilisés dans l'élevage. Donc les antibiotiques, on les utilise d'une part pour la santé humaine et on les utilise énormément dans l'élevage et ça représente des quantités qui sont considérables. Alors, une généralité que ce soit en santé humaine ou en santé animale, c'est que plus on consomme des antibiotiques, plus on va avoir l'apparition de bactéries qui présentent des résistances par rapport à ces antibiotiques. Et donc l'objectif de l'étude, c'était d'essayer de faire une première évaluation globale de la quantité d'antibiotiques qui sont utilisés exclusivement pour l'élevage. Donc il faut bien distinguer les choses. L'étude, elle s'intéresse spécifiquement à la consommation d'antibiotiques pour l'élevage bovin, l'élevage de porc et l'élevage de poulet. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que cette quantité d'antibiotiques qui est utilisée pour l'élevage, non seulement elle est très importante, mais en plus, elle va encore plus augmenter dans les décennies qui viennent, et en particulier dans les pays en transition économique.
Je vois que l'Afrique du Sud, notamment, est signalée comme l'un des pays où l'usage d'antibiotiques est considérable. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Les usages d'antibiotiques varient très fort d'un pays à l'autre en fonction des législations qui se sont mises en place pour les réguler. Donc, il y a trois types d'usages des antibiotiques en élevage. Il y a un usage qui est préventif, c'est-à-dire qu'on va donner des antibiotiques aux animaux afin d'empêcher les infections avant qu'elles ne surviennent. Il y a un usage qui est curatif, donc on va donner, ça c'est très très proche de l'usage humain, c'est-à-dire on prend des antibiotiques, on donne des antibiotiques aux animaux lorsqu'ils sont malades. Et il y a un troisième type d'usage qui a été fortement répandu dans l'élevage, qui est un usage afin de promotion de croissance. Donc pour faciliter l'engraissement des porcs et de la volaille, on donne des antibiotiques dans la nourriture des animaux parce qu'on a constaté que quand on fait ça, les animaux vont prendre du poids plus rapidement que si on ne leur donne pas d'antibiotiques. Et selon les pays, les régulations qui sont en place vont autoriser ou pas ces différentes pratiques. Donc par exemple, en Europe, ça fait de nombreuses années que les antibiotiques sont interdits comme promoteurs de croissance, mais ils peuvent toujours être utilisés à des fins préventives et curatives. Aux États-Unis, c'est très récent qu'il y ait une révision de la législation en ce qui concerne l'utilisation comme promoteur de croissance. Et les producteurs se sont engagés à réduire l'utilisation des antibiotiques comme promoteur de croissance. Je ne connais pas la situation spécifique de l'Afrique du Sud, mais il y a un très grand nombre de pays où les régulations concernant l'usage des antibiotiques sont totalement absentes. Et donc, l'utilisation des antibiotiques est laissée à la responsabilité des producteurs, donc des éleveurs, qui vont prendre la décision d'utiliser ou pas les antibiotiques dans des plus ou moins grandes quantités. Et dans de très nombreux pays, ces antibiotiques sont disponibles sur le marché de façon tout à fait libre. Et donc les producteurs eux-mêmes vont utiliser les antibiotiques un petit peu comme bon leur semble. Et c'est ça, je dirais, qui représente un risque très important en matière d'émergence de bactéries résistantes. Puisque lorsqu'on fait une utilisation non raisonnée de ces antibiotiques, eh bien on favorise l'émergence de bactéries résistantes.
L'étude publiée donc dans Proceedings of the National Academy of Science rappelle que même si la résistance aux antibiotiques peut être régionale, par contre, ce problème peut se communiquer au reste du monde.
Bien entendu. Le monde, du point de vue des pathogènes, est un monde qui est globalisé. On le sait bien pour la santé humaine. On voit bien comme lorsqu'il y a une épidémie d'Ebola, ça peut représenter un risque d'introduction de cas aux États-Unis. Mais la même chose se produit au niveau de la santé animale. Donc lorsqu'il y a des pathogènes qui émergent dans une région du globe, il ne faut pas tellement longtemps pour qu'on retrouve ces mêmes pathogènes, et on peut le tracer sur des bases moléculaires, il ne faut pas tellement longtemps pour qu'on retrouve ces mêmes pathogènes de l'autre côté du globe, en raison en fait de la commercialisation des circuits commerciaux qui impliquent des échanges très importants, soit d'animaux vivants, soit de produits, entre différents pays de par le monde, et qui peuvent donc transporter ces pathogènes d'un pays à l'autre.
Le scientifique Marius Gilbert, épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles, il était joint en Belgique. Ici Washington, Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Science et Santé. À l'occasion de la 15e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui s'est tenue récemment au Caire, les responsables africains se sont penchés sur leur avenir écologique. Déboisement, diversité biologique, législation relative au commerce illégal de la faune et de la flore sauvage, autant de défis qui soulignent l'importance de la coordination entre les pays africains pour une gestion intégrée des ressources. Le développement durable était à l'ordre du jour, y compris le transport durable. Mais en termes pratiques, que signifie pour l'Africain moyen le développement durable ou encore les emplois verts? Marc Ona Essangui, l'un des principaux dirigeants de la société civile gabonaise et le président de l'ONG Brain Forest, nous en dit plus.
Qu'est-ce qu'on entend par emploi vert? Parce qu'il ne faut pas amener en Afrique des concepts qui, à terme, vont donner un peu d'espoir. Et malheureusement, cet espoir s'envole. Ça me rappelle tout ce qu'on a dit autour des crédits carbone. Que ceux qui vont préserver l'environnement vont recevoir en retour de l'argent. Ceux qui ne vont pas couper leur arbre, etc. On amène toujours des concepts qui, malheureusement, en Afrique, n'ont pas de réalité immédiate. Je crois aux emplois verts.
On écoutait M. Marc Ona Essangui, l'un des principaux aux dirigeants de la société civile gabonaise. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour cette édition de Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Deux grandes sociétés de technologie ont l'intention d'intégrer les voitures autonomes à la vie quotidienne. Le point avec Anne Albertson.
Il y a d'abord la mise à l'essai par la société Delphi Automotive de sa voiture autonome Audi Q5S. La date du départ du véhicule a été fixée au 22 mars et il sera chargé de relier San Francisco à New York, une belle randonnée de plus de 5600 km. Une première pour les voitures autonomes, le but du voyage étant de mettre à l'épreuve tous les systèmes automatiques. La voiture est équipée de 4 radars de courte portée, 3 caméras et 6 lasers de mesure de distance, ainsi que de toute une gamme d'autres systèmes. Delphi Automotive pourra ainsi recueillir des données pour améliorer le prototype. Il y aura à bord des passagers chargés d'observer la performance sur les routes, mais ils prendront quand même les commandes pour la sortie des autoroutes. De son côté, la firme Nvidia a dévoilé un nouvel ordinateur expérimental pour permettre aux voitures autonomes d'apprendre à réagir par elles-mêmes, plutôt que de suivre fidèlement un ensemble prédéfini de règles et de données. Grâce au programme de Nvidia, les conduites autonomes vont acquérir des expertises de la même façon que les êtres humains, à l'épreuve des milliers de situations en tout genre auxquelles elles sont confrontées sur la route. Ainsi, l'ordinateur de la voiture devrait éventuellement être en mesure de faire la distinction entre la nécessité de freiner pour éviter un petit animal sur la route, mais pas pour un morceau de journal porté par le vent devant le véhicule.
Ici Washington, vous suivez Carrefour Science et Santé. Mis à part les voitures autonomes, on compte également les voitures volantes parmi les dernières merveilles de la haute technologie. Jacques Aristide.
Aéromobile, une petite start-up slovaque, a dévoilé un beau joujou au South by Southwest, grande kermesse de la haute technologie interactive à Austin, au Texas. Il s'agit d'une petite voiture volante qui pourrait être commercialisée dès 2017, en croire Duraj Vakulik, le patron d'Aéromobile. Le prototype compte 2 sièges et peut soit rouler, soit voler. Il ne lui faut que 300 mètres au maximum pour décoller d'un gazon ou d'une piste. Sur Terre, il peut atteindre 160 km/h contre 200 km/h en vol. Alors où se garer une fois revenu au sol ? Eh bien, dans un parking, le véhicule ayant la taille d'une voiture normale. Quant au ravitaillement, il a suffi d'une pompe à essence. Ce premier modèle d'aéromobile est donc capable de voler et d'être autoconduit, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps sur des distances relativement courtes, puisqu'il n'est plus besoin de passer par un aéroport. Encore faudra-t-il attendre l'approbation de la FAA, le Flying Roadster coûtera plusieurs centaines de milliers de dollars. S'il se vend bien, Aéromobile compte mettre au point un modèle autonome. Alors voilà, si vous avez toujours rêvé d'émuler James Bond, Aéromobile est là pour satisfaire tous vos fantasmes.
Ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier qui vous remercie de l'avoir suivi.